Chapitre 10. Enlevé. Rosa, un jour, eut besoin de quelques-uns de ces articles délicats, indispensables à la table à ouvrage d'une femme, et aussi inconnus à la rudesse de l'esprit masculin que les mystères d'Éleusis à ceux qui n'étaient pas initiés. Quelque chose, qui pourra deviner quoi, manquait aux bobines, aux écheveaux, aux mille riens délicats, parmi lesquels s'agitaient les mains délicates de Rosa, pendant ce grand nombre d'heures qui ne saurait être rempli par une occupation intellectuelle, même la plus légère. Il lui manquait une chose, en l'absence de laquelle la vie lui devenait un fardeau. Or, si l'on envoyait la domestique chercher cette chose, elle rapporterait sûrement un objet ridiculement différent de ce que désirait sa maîtresse. Voyons, par exemple, un canari au lieu d'un paquet d'aiguilles. Rosa n'avait donc rien de mieux à faire que de promener ses formes enfantines et de s'en aller elle-même quérir son importante emplette. Le soir arrivait, mais le crépuscule d'été était encore long, bien que les derniers jours de juin fussent déjà passés. Rosa, qui n'était plus agitée par les mêmes craintes qu'à Clusterham, et qui n'était au fond qu'une pensionnaire, aimait par-dessus tout à sortir librement, sans être accompagnée. Elle ne demanda donc pas à Mademoiselle Twinkleton, comme il lui eût été si facile de le faire, de déposer le crochet à l'aide duquel elle fabriquait en ce moment quelques monstres de laine destinés à figurer sur le dossier d'une chaise, et de l'accompagner pour faire cette commission qui ne devait pas prendre plus d'une demi-heure. Donc Bouton de Rose sortit seul, très peu de temps avant qu'on allumât les réverbères. Elle se dirigea vers Holborn, et de là vers l'est, vers le magasin du mercier fortuné qui avait réussi à s'assurer la fourniture des objets de fantaisie destinés à cette petite majesté. Tout en marchant, elle remarquait peu les choses qui l'entouraient, elle ne réfléchissait même pas aux emplettes qu'elle devait faire, car son esprit était emporté dans un de ces longs et importants voyages que la jeunesse et l'amour se permettent de faire ensemble, sans le secours des mauvaises voitures, des cabines de bateaux à vapeur ou des wagons de chemin de fer. Ils y rencontrent quelquefois d'autres orages que ceux de la montagne, d'autres naufrages que ceux de la mer. Rosa avait pour le moment, cher petit atome féminin, un compagnon dont la présence n'était visible pour aucun des passants qui la croisait. C'était à peine si elle-même avait bien le sentiment de sa présence, et pourtant elle flottait, voguait, errait avec lui à travers des millions de lieues, sur l'océan et par-dessus les pics de l'imagination. Elle ne revint sur la terre qu'au moment où un petit garçon boulanger, portant sur la tête un panier de pain tout fumant, fit presque tomber le chapeau imperceptible de Rosa et s'excusa lourdement d'un accident que la distraction de la jeune fille avait seule causé. À partir de ce moment, elle rentra dans ce monde et commença de voir les bipèdes et les lourdes constructions par lesquelles les architectes ont défiguré la nature sous prétexte de l'embellir. Elle marchait d'un pas ferme et elle réussit à traverser la rue entre quatre voitures qui venaient en quatre sens différents, avec une impunité que n'aurait pas rencontrée une autre personne plus vigoureuse et plus sage. Un instant après, elle faisait couler un fleuve de délices et d'amertume dans la boutique du mercier. Là, il fallut que trois commis s'occupassent d'elle, au détriment des autres clients plus sérieux. Elle touchait à tout, remuait et déroulait toutes les bobines, embrouillait tous les écheveaux, portait le désordre dans toutes ses marchandises légères et ne trouvait rien à son gré. Quand, enfin, elle sortit de la boutique avec quelques onces de plus dans son sac en miniature et un shilling ou deux de moins dans sa bourse, qui paraissait avoir été faite par les ouvriers de Lilliput, le mercier et ses employés poussèrent un soupir de satisfaction et les affaires de la maison reprirent leur cours ordinaire. Il faisait presque nuit quand la petite acheteuse, ainsi chargée, traversa de nouveau la rue et remonta le côté nord d'Holborn en traversant Furnival et Holborn's Bars. Il faisait presque nuit, mais les réverbères étaient allumés. Elle se dépêcha de rentrer, car la demi-heure était écoulée depuis un moment et on pourrait s'inquiéter à la maison. Elle se dépêcha, mais... Ah, les belles peintures dans cette vitrine! Y a-t-il un autre plaisir d'enfant dont nous conservions plus longtemps le souvenir et l'habitude que celui de regarder les images? Plaisir qui vous procure la jouissance de toutes les choses qui sont peintes sur ces toiles, sans vous rien coûter, ou sans la difficulté de savoir ce qu'on en ferait si on les achetait? Question toujours grave. Elle dépensa encore quelques minutes. Le crépuscule s'assombrit encore. Il faut qu'elle se hâte. Un petit frisson de terreur, en se trouvant seule dans la rue plus tard qu'à l'ordinaire, commençait à la gagner. Elle regrettait de n'être pas sortie plus tôt ou de n'avoir pas demandé à Mademoiselle Twinkleton de l'accompagner. Elle marchait rapidement, très rapidement même. Si le garçon boulanger de tout à l'heure était venu à repasser avec sa planche vide, c'eût été lui qui aurait couru le danger de recevoir le choc à son tour. Elle se trouvait juste en face de l'arcade de Gravine quand une ombre soudaine sembla bondir sur son chemin. Ce n'était pas un fantôme de la nuit qui n'était pas assez noir pour produire des fantômes, ce n'était pas non plus un jeu de la lumière des réverbères chassés par le vent. C'était une ombre humaine avec le visage et le corps d'un homme qui frappait à la fois les yeux et le cerveau de boutons de rose, et cet homme était John Jasper. Jasper était debout du côté ouest de l'arcade et regardait dans la direction par laquelle Rosa arrivait. La jeune fille le reconnut du premier coup. Quant à lui, il n'était que trop certain qu'il l'avait déjà reconnu, il n'était que trop probablement même qu'il avait espionné ses démarches et l'attendait là de propos délibérés. C'est elle qui parla la première, incapable de feindre de ne pas le reconnaître, tout à fait hors d'état de faire un brusque mouvement pour le dépasser et de se mettre à courir comme elle en avait eu la pensée, mais elle n'avait pu communiquer pour cela assez de force à ses membres tremblants. Elle murmura un seul mot dans son effroi. « Monsieur Jasper !»« Mademoiselle Budd, Rosa » répondit-il. Sa voix était rauque et tremblante, comme s'il était en proie à une terreur aussi violente que celle de la jeune fille, ou à une émotion plus puissante encore. « Excusez-moi, je vous prie, et bonsoir, il est tard et je devrais être rentrée. » Le cerveau de bouton de rose avait enfin communiqué sa volonté aux membres et maintenant elle essayait de fuir. Sans se permettre de la toucher, il fit un pas en avant et lui barra le chemin. « Excusez-moi, Rosa, vous ne voudriez pas me quitter ainsi sans m'avoir dit un mot, n'est-ce pas ? » s'écria-t-il de la même voix rauque. « Non, j'ai quelque chose à vous dire, moi, avant que nous nous séparions, et il faut que je vous le dise. « Monsieur Jasper, si vous êtes un galant homme, vous me laisserez passer, car il est tard et je ne dois pas rester plus longtemps dehors. » Elle avait réuni assez de force et de courage pour dire encore ces mots-là. Mais elle sentait en même temps que le courage et la force l'abandonnaient en présence de cet homme qui exerçait sur elle une si tyrannique emprise. « Non, vous ne pouvez pas vous en aller et vous ne vous en direz pas avant que je vous ai parlé, » répliqua-t-il sans lui ouvrir le chemin. « Je vous en prie, laissez-moi rentrer » fit-elle d'une voix suppliante. Puis elle reprit un air de menace qui ne pouvait guère effrayer personne. « Si vous ne me laissez pas passer, j'appellerai au secours. » « Vous n'en ferez rien, » répondit-il d'un air d'assurance qui prouva qu'il avait bien compris la pensée de Rosa. « Non, vous m'avez échappé une fois, vous vous êtes enfui et vous avez été assez simple, pardonnez-moi de le dire, pour croire que vous étiez délivré de moi. Ne le croyez pas, je suis un homme dont on ne se débarrasse pas aisément quand j'ai mis quelques desseins dans ma tête, à plus forte raison quand mon cœur est en feu. »« Oh, monsieur Jasper !» Elle essayait encore de le supplier, mais plus faiblement que la première fois. Il l'interrompit tout court. Elle n'acheva pas sa phrase. Arrêtez. Ce que vous allez dire ne servira de rien, au contraire. Écoutez. Vous souvenez-vous de la dernière conversation que j'eus avec vous dans le jardin de la maison des nonnes, près du cadran solaire ? Elle ne répondit pas. Il n'attendait pas une réponse et n'en désirait point. Il voulait seulement qu'elle se souvînt. Elle n'avait que trop gardé ce souvenir qui la fit trembler. « Vous avez essayé de m'échapper ce jour-là et vous ne l'avez pas pu. Vous ne le pouvez pas encore à présent. J'ai attendu ce moment depuis le jour de votre fuite. Mon bonheur m'appartient et je n'entends pas en être privé. » La pauvre jeune fille sentit que le magnétisme de cette volonté l'enchaînait. Elle était physiquement impuissante à y résister, bien que son cœur se révoltât contre cette tyrannie. Elle se trouvait aussi complètement seule avec cet homme sur le pavé d'une des rues les plus fréquentées de Londres que s'ils eussent été au milieu d'un désert. 20 personnes par minute passaient en frôlant presque sa robe, mais elle était aussi incapable d'appeler au secours que si elle eût été muette. « Entrez avec moi pour un instant sous cette arcade, » dit-il. « Il y a un square au-delà où nous pourrons causer sans attirer trop d'attention. »« Non, je ne le puis pas. Je ne le veux pas, » dit-elle machinalement. « Vous le pouvez et vous le voulez, Rosa, » répondit-il. « Venez, j'irai devant, suivez-moi. » Elle essaya de ne pas lui obéir. Elle se répéta toutes les raisons pour lesquelles elle ne devait pas le suivre et il n'y en avait aucune qui l'obligeât à le faire. Cependant, elle se sentit entraînée dans la direction qu'il indiquait. Elle sentit qu'elle passait sur l'arcade sombre pour entrer dans ce square inconnu. Elle réunit encore assez de force pour y mettre une condition qu'il accepta miséricordieusement. « Si je vous accompagne, voulez-vous me promettre de ne pas me toucher ? Voulez-vous me le jurer ? Vous devriez me suivre sans condition, mais je veux bien en passer par une de vos fantaisies. Combien de caprices ne supporterais-je pas de vous, Rosa, si vous vouliez m'accepter, même en me haïssant, même en me foulant aux pieds, même en me crachant au visage ? Oui, je jure que vous viendrez dans le square et que vous en sortirez sans que je vous aie touché. Est-ce assez ? C'était assez, il le fallait bien. Elle n'était point en état de poser d'autres conditions que celles qu'elle croyait indispensables. Il passa sous l'arcade, elle le suivit, marchant d'un pas saccadé, plus semblable à celui d'une somnambule qu'à celui d'une personne vraiment bien éveillée. Il ne la touchait pas, quoiqu'il marchât tout près d'elle, et pourtant elle n'avait pas plus le pouvoir de le quitter, en ce moment où son âme tout entière était pleine de crainte et de répulsion, que s'il la tenait par une chaîne. Encore quelques pas, et ils allaient entrer dans le square méridional de Gray's Inn, où les réverbères jetaient une lumière maladive sur les briques sombres et où l'esprit de séquestration et de triste solitude semblait régner, même à cette heure peu avancée. Il s'arrêta, elle l'imita en se tenant à distance, et il reprit ce qu'il lui disait un moment auparavant dans la rue. Ces paroles paraissaient à Rosa résonner tout près de son oreille, et il lui semblait en même temps que pour arriver là, elle traversait des espaces infinis. Elles excitaient chez la jeune fille une terreur sans espoir. Qui donc viendrait la délivrer ? Rosa, dit-il, et sa voix toujours rauque s'était raffermie, comme s'il dominait à présent son émotion. « Rosa, regardez-moi. » Elle obéit machinalement, comme elle faisait depuis un instant. Pour la première fois, à la clarté du réverbère, près duquel il s'était arrêté, elle vit assez bien le visage de Jasper pour pouvoir l'observer. Elle sentit qu'elle aurait pitié de lui s'il ne la tenait pas si cruellement en son pouvoir, en voyant les traces que ces quelques semaines avaient laissées sur ce visage abattu. Jasper avait maigri et se tenait courbé. Il avait une autre attitude dans ces jours si peu éloignés et qui pourtant semblait passer depuis si longtemps. Ses vêtements, qui n'étaient pas usés cependant, étaient arrangés avec moins de soin. Il avait cet air et ces plis indescriptibles qu'on remarque sur un homme qui ne se soucie plus de lui-même. Mais le changement le plus frappant était dans sa physionomie. Ses traits étaient amaigris comme tout son corps, et sous la lumière du réverbère, il apparaissait jaune et sec, parcheminé, ses lèvres serrées semblaient collées contre ses dents, et ses yeux brillaient du feu de la fièvre ou de la folie. « Vous m'avez regardé, dit-il au bout d'un moment, je sens votre regard comme je sens chaque mouvement, chaque pulsation de votre être. Tandis que vous, cruelle fille, vous ne me sentez que quand je vous y force. Vous voyez comme je suis changé, je le sais, j'en suis sûre. » Il semblait attendre une réponse. Elle répondit, toujours machinalement, « Oui, monsieur Jasper, vous êtes changé. » Je suis changé, reprit-il avec violence. Et qu'est-ce qui m'a changé? Vous. Vous m'avez ensorcelé. Je sais ce qu'était la sorcellerie des temps anciens, à présent. Vous prétendez que vous ne m'avez pas fait de mal, que vous n'avez pas eu l'intention de m'en faire. Bah, je sais ce que cela veut dire dans la bouche d'un charmant démon comme vous. Oh, monsieur Jasper, pourquoi dites-vous de ces épouvantables choses? S'écria-t-elle, arrachée un moment à sa stupeur par l'excès même de crainte et d'horreur qui la possédait. Mais il interrompit encore une fois. Je savais ce qui arriverait. Vous voudriez tout nier. Mais cela est inutile, il est trop tard. Vous le voyez, vous ne pouvez pas m'échapper. Et combien de temps doit durer cette comédie? Votre nouvel amoureux, Neville Landless, a déjà la corde autour du cou. C'est moi qui l'y ai placé. Je vous ai amené ici ce soir pour vous demander encore une fois, et ce sera la dernière, si vous avez sérieusement pesé ce que je vous ai dit dans le jardin de la maison des nonnes, et si vous avez l'intention de me dédommager de la ruine de mon corps et de mon âme par le plaisir de la vengeance. Pour la première fois depuis la rencontre en avant de l'arcade, la petite Rosa respira librement. Elle secoua presque l'enchantement qui l'étreignait. Elle éprouva un soulagement inattendu et pourtant horrible. Cet homme, qu'elle craignait tant, se métamorphosait encore une fois à ses yeux. Il était fou, voilà tout, il était fou. Elle avait moins peur de cet insensé que de l'autre. L'ancien Jasper exerçait sur elle une tyrannie magnétique. Elle avait même, tant est subtil le principe de la vanité humaine et féminine, une certaine pitié pour l'homme qui semblait avoir perdu la tête à cause d'elle, quelque terrible et méchant d'ailleurs qu'il pût être. Mais la difficulté de sa situation présente n'en était nullement diminuée. Elle s'en aperçut bientôt aux paroles de Jasper. « Je répète ma question, Rosa m'a bien aimée, dit-il, et je la répète pour la dernière fois. Je vous ai dit déjà que vous pouviez faire ce que vous voudriez, me repousser, me fuir, mais vous débarrasser de moi, jamais. Personne ne pourrait se placer entre nous sans risquer d'être écrasé comme j'écrase ce gravier sous mon talon. Je vous poursuivrai jusqu'à la mort. » La terreur de la jeune fille devenait plus intense, quoique d'une nature différente, pendant qu'il lui répétait les menaces qu'il lui avait faites dans leur dernière entrevue. Combien sa situation était terrible! Et comment s'échapperait-elle? Car il fallait qu'elle s'échappât, et tout de suite, et à tout risque. « Monsieur Jasper, dit-elle d'une voix aussi calme que possible, j'espérais que vous m'auriez retenu ici moins longtemps. C'est bien mal, bien mal. Et que dira-t-on de moi à la maison? Vraiment, vous devriez me laisser aller à présent. » « Quoi, Rosa, sans que vous m'ayez répondu? Non, n'y pensez pas. Vous espériez autre chose encore. Vous espériez ne jamais me revoir. Ne l'espérez plus. Vous ne sortirez pas d'ici avant d'avoir répondu à ma question, faite pour la dernière fois. Voulez-vous repousser votre nouvel amant comme vous avez repoussé l'autre? Voulez-vous être à moi? » Ce fut un cri d'horreur qui s'échappa des lèvres de la jeune fille. Elle s'en aperçut à peine. Il lui avait été arraché par le souvenir du passé et les sensations du présent. Elle revit cette ombre chère qui était sortie avec elle pour cette course fatale. Le nom de Tartare lui vint aux lèvres. « Oh non, non, non! Comment pouvez-vous me demander encore cette chose abominable? Pourquoi persistez-vous à me torturer ainsi ?» Il resta un moment silencieux. Quand il parla de nouveau, sa voix était furieuse comme celle d'un torrent. « Je dois comprendre alors, Rosa, que vous me refusez sans condition et pour longtemps. Point de malentendus entre nous que nous puissions regretter plus tard. Vous refusez donc de m'appartenir à jamais ? Pourquoi me forcez-vous à le répéter encore une fois ? Pourquoi me retenez-vous ici ? Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, Rosa, mademoiselle Budd, répondit-il d'un air très calme en apparence. « Venez, ce que nous avions à dire est dit. Vous désirez vous en aller. Que les conséquences de votre décision retombent sur vous si vous regrettez plus tard la conclusion de cette entrevue. » Il ne la toucha pas, ainsi qu'il l'avait juré. Il se dirigea vers l'arcade par laquelle ils étaient entrés. Son visage, quelle qu'en fût l'expression, échappait ainsi au regard de Rosa. Elle le suivit un peu en arrière, à sa gauche, très étonnée du calme relatif avec lequel il avait accepté son refus, bien qu'il y eût une terrible menace dans sa réponse. « Que je puisse seulement lui échapper maintenant, pensait-elle. À l'avenir, je prendrai soin de moi-même et je me garderai bien de me trouver seule dans la rue, en aucun cas tant qu'il vivra. Que je puisse seulement rentrer avant que Mademoiselle Twinkleton et ses amis soient devenus trop inquiets. » Monsieur Jasper gardait son calme extraordinaire et ils n'échangèrent pas une autre parole. Ils repassèrent sous l'arcade et se retrouvèrent dans la rue. Le péril était dissipé. À ce moment, arriva un accident dont l'explication sera toujours aussi difficile pour Rosa, même après 20 ans, qu'il le fut à cette heure. Aujourd'hui, si son cerveau est devenu capable de saisir la philosophie des événements, elle peut puiser dans ses souvenirs un exemple de la folie des calculs humains. Souvent, on croit un danger passé, il ne fait que naître. Il devait y avoir une voiture attendant à cet endroit, la portière tout ouverte. C'était une voiture à 4 roues. Elle devait certainement y être, bien qu'elle ne l'eût pas vue et qu'elle n'ait jamais pu déterminer la place exacte où elle pouvait bien stationner. Bouton de Rose se sentit enlevée de terre. Elle se sentit jetée dans la voiture avec une telle rapidité qu'elle n'eut ni la force de résister, ni la pensée de jeter un cri. Elle entendit son compagnon hurler un ordre au cocher plutôt que de lui donner une adresse. Elle le vit à ses côtés dans la voiture. Il lui mit la main sur la bouche. La voiture courait vers Oxford Street. Il y a des circonstances où le cerveau même d'une enfant sans expérience peut arriver à combiner des idées avec une rapidité et une clarté remarquables. La pauvre Bouton de Rose, pendant les 2 ou 3 minutes qui suivirent, tira de ce qui venait de se passer des conclusions très raisonnables. Elle comprenait tout maintenant. Pourquoi il avait attiré dans le square afin de la pousser à une réponse définitive? Pourquoi il l'avait gardée si longtemps afin que l'obscurité fût plus complète quand il en sortirait? Par-dessus tout, enlevé par l'homme, qu'il ne fût que fou ou pire encore, elle comprit qu'il se proposait d'accomplir un dessein. Par exemple, elle n'en devinait pas bien toute l'atrocité et ses pensées effrayées s'arrêtèrent. Elle se débattait et essayait de crier. La tentative demeura vaine. Jasper avait passé un de ses bras autour de la taille fine de Rosa, il la retenait sans peine et son autre main était posée sur la bouche de la jeune fille. Il n'employait que juste la force nécessaire pour étouffer ses cris, pas davantage. Il attendait sans doute d'avoir gagné la maison infâme où il voulait la conduire. Et cependant, il avait juré de ne pas la toucher dans le square. Sa main, posée sur la bouche de Rosa, n'était pas un bâillon des plus sûrs. Il pouvait en avoir besoin pour un autre usage et, en la retirant soudain, se mettre dans l'embarras. John Jasper, expert en certains détails de draperie, les écharpes par exemple, essaya bientôt de substituer un mouchoir à sa main pour fermer la douce petite bouche. Cette tentative devint fatale, pour lui, comme on va le voir. Pendant cette opération, le maître de chapelle, par inadvertance, laissa glisser un de ses doigts entre les 2 rangées de dents nacrées qu'il avait tant et si souvent admirées. Voilà les petites dents qui s'en aperçoivent et accomplissent leur devoir et se serrent comme si ce doigt était un morceau des plus friands, un des bonbons du magasin des délices. Les perles aiguës se serrent comme un étau, aucun effort ne peut les faire lâcher, il faudra donc laisser le doigt. Or, Jasper a besoin de ses 2 mains pour la besogne même qu'il veut faire. Il lutte encore, l'étau se resserre, il pousse malgré lui un gémissement étouffé. La jeune fille, plus libre depuis que le bras de Jasper ne la retient plus, se jette contre la portière et essaie de briser la glace. Elle frappe, non avec ses petites mains qui seraient trop faibles, mais avec son petit sac, alourdi des emplettes faites chez le mercier et qui est muni d'un fermoir d'acier. Au 3e coup, il passe au travers de la glace, la frêle barrière résonne en tombant sur le pavé. « Oh oh !» dit le cocher qui arrête pour savoir pourquoi, comment s'est produit l'accident et quel est le dommage causé.
« Au secours ! Au secours !»
La captive pousse ce cri d'une voix suraiguë. Cette fois, elle a lâché le doigt de Jasper. « Damnation ! » gronde Jasper entre ses dents serrées, car il reconnaît aussitôt, fou ou non, que l'occasion est perdue. Il ouvre la portière opposée, s'élance dehors et s'enfuit, tandis que le cocher ouvre de l'autre côté. La voix de Mademoiselle Budd appelant au secours, « Qu'est-ce que cela veut dire, cocher ?» demanda naturellement M. Grudges, descendant du trottoir, d'où il avait été le spectateur surpris de la dernière scène.
« Monsieur Grudges ! Oh, Monsieur Grudges ! Pourquoi ? Pourquoi suis-je sortie toute seule et si tard ?»
Telles sont les premières paroles que la jeune fille délivrée parvient à prononcer. C'est une question directe et personnelle adressée à l'avocat. On peut pardonner à M. Grudges, vu les circonstances, de n'y avoir pas répondu. « Mademoiselle Budd, ma chère demoiselle, qu'est-ce que tout cela signifie ? » dit-il en acceptant l'invitation que lui adressaient deux petits bras tendus vers lui. Puis il aide Rosa à sortir de la voiture, il la dépose avec une dextérité pleine de raideur au beau milieu de la rue.
« Oh, Monsieur Grudges ! Oh, quel bonheur que vous vous soyez trouvé là ! Pourquoi ? Pourquoi tout cela est-il arrivé ? Je ne puis vous le dire ici. Je vous en prie, reconduisez-moi à la maison !»
Exclamation confuse plutôt qu'explicative tombe comme un torrent des lèvres de Bouton de Rose, si heureusement rouvertes. « Certainement, ma chère demoiselle, certainement. Vous n'êtes pas blessée, non ? Quoi qu'il soit arrivé, tout est pour le mieux. Vous ne semblez pas non plus être très effrayée, sans cela vous ne parleriez pas. Bon, et maintenant, comme vous le dites, je vais vous reconduire chez vous sans la voiture, la distance n'étant pas bien grande, même pour vous. » Mais le cocher intervint au moment où l'avocat et la jeune fille allaient s'éloigner de la voiture endommagée.
« Ohé, dites donc, personne ne va donc me payer ma course et cette glace brisée ?»«
Bon Dieu, ma chère enfant !» s'écria M. Grudges, toujours soucieux de l'équité comme il convient à un avocat. « Que faut-il faire de la voiture ? L'aviez-vous demandé, ma chère ?»«
Oh, non, non !» reprit vivement Rosa. « On m'y a jeté de force, et c'est ce que j'allais vous dire. »«
Eh bien alors, cocher, je ne vois pas que vous ayez rien à réclamer à cette demoiselle, et je suis bien sûr que vous n'avez rien à me demander à moi. Où est la personne qui a arrêté votre voiture ?» Il s'est enfui quand cette glace a été brisée. « S'en m'en a l'air, du moins, puisque je ne le vois plus, » répond le cocher d'un air dolent. « Mais mademoiselle, » et sa voix devient plus gaie, « sans vous manquer, n'est-ce pas vous qui avez brisé la glace ?»«
Eh bien, ma chère demoiselle, » demanda l'avocat. « Moi, certainement, j'ai brisé la glace pour sortir, pour lui échapper. »«
Là, je vous disais bien, c'est elle qui a fait le coup et je veux mon argent, » répondit le cocher d'un air triomphant.
« Que faire, Monsieur Grudges ? Je n'ai pas assez d'argent pour le payer !» s'écria Rosa.
« Votre carte !» suggéra le cocher enchanté qui crut déjà tenir son dû. « Un instant, dit Monsieur Grudges, permettez-moi de considérer l'affaire au point de vue de la loi. Vous n'avez pas arrêté la voiture, Mademoiselle Budd, et elle n'a pas été arrêtée à votre demande ou avec votre consentement ?»«
Non ! Oh non !»
Vous avez été forcé d'y monter par quelqu'un qui apparemment l'avait arrêté et dont le nom n'est pas essentiel à notre affaire.
Oui, oh, Monsieur Grudges.
Pardonnez-moi de vous interrompre, Mademoiselle Budd. Vous avez brisé la glace comme moyen et c'était probablement le seul d'attirer l'attention et de vous échapper.
Oui, mais je suis très fâchée.
« Les regrets, ma chère demoiselle, comme le nom de l'homme, ne sont pas nécessaires dans le cas présent. Autant que je puisse en juger jusqu'à présent, le cocher pourrait être arrêté comme particeps criminis dans une tentative d'enlèvement et de violence sur la personne d'une mineure et la punition, si on faisait la preuve, serait sévère à moins que vous ne refusiez de déposer contre lui. « M'arrêter ? » s'écria le cocher avec indignation. « Le diable m'emporte. Je n'aimerais pas à vous voir essayer cela. »
« Évitez de jurer devant les dames, mon bon ami, » continua M. Grudieuse. « Quant à l'accident arrivé à la voiture, il est à la charge de celui qui l'a prise, si vous pouvez le trouver. Vous ne devez rien, ma chère demoiselle. Maintenant, si vous voulez accepter le bras d'un homme anguleux, qui peut n'être pas bien commode pour une dame, nous partirons. »«
Eh bien, en voilà une forte, et c'est diablement dur pour un pauvre homme d'avoir son carreau brisé, et puis pas de course encore. » Si je l'attrape, cet autre !»
Le cocher remonta sur son siège avec cette fiche de consolation. Un groupe de flâneurs s'était formé autour de la voiture. M. Grudieuse et Rosa durent braver ces curieux pour reprendre le chemin du logement chez la Billikine. Pendant ce court trajet, Rosa eut pourtant le loisir de confier à M. Grudieuse non seulement le nom du bandit qui avait voulu abuser de sa candeur, mais encore toutes les circonstances importantes de leur première entrevue. Elle y ajouta une humble requête, car elle désirait vivement ne pas entendre commenter son aventure, même par ses amis. Elle pria son tuteur de lui garder le secret, au moins pendant quelque temps, à moins qu'il ne se présentât une raison sérieuse de le révéler. L'avocat, qui avait écouté avec plus d'intérêt qu'il n'en laissait voir la naïve confession de la jeune fille, y consentit, avec une promptitude conforme aux habitudes de sa profession. Quelques minutes plus tard, il déposait Bouton de Rose à la porte de la Billikine, refusant d'entrer en ce moment, mais il attendit que la porte se fût refermée sur sa pupille, après quoi il se dirigea d'une façon anguleuse vers son appartement solitaire sous la large égide de P.J.T. Ses lettres prirent à ses yeux un sens particulier, tandis qu'il mangeait son souper solitaire. P.J.T. pouvait ainsi se traduire désormais « passion judiciairement traduite ». M. Grudieuse réfléchit et pèse les nouvelles preuves que lui apporte l'événement de la soirée dans la mystérieuse affaire qui intéresse si fort une enfant qu'il aime. Puis le vieillard soupire tout en examinant ses preuves frappantes et la folie de Jasper le ramène au passé. Il soupire, et son visage est si profondément ému que, pour le moment, il cesse d'être laid et anguleux. Il trouverait le chemin du cœur de tous ceux qui ont aimé et souffert, mais qui ont supporté leur peine comme des hommes. « Ah » dit-il, « et moi, n'ai-je pas été un fou, un vieux fou ? Sa bague ! Je me demandais si elle me reviendrait jamais. Elle est revenue, et d'une façon étrange qui surpasse tout le reste. » Elle aussi est revenue de ce pays lointain où elle s'en est allée il y a si longtemps. Elle est revenue dans sa fille. Et moi, vieux, laid, désagréable, moi qui n'ai pas plus de chance que mon charbonnier de gagner l'amour d'une femme, même maussade et vieille, je vois dans la fille tant de choses qui me rappellent sa mère que j'ai peine à ne pas me trahir en sa présence. Mon Dieu, comme elle lui ressemblait ce soir dans sa frayeur! Combien il m'en a coûté, pour ne rien dire, de ceux qui l'auraient éloigné de moi avec un mouvement de crainte et de dégoût encore plus profond qu'elle éprouve envers ce brigand de Jasper. « Allons, » ajouta-t-il après un silence marqué par un nouveau soupir, « Hiram Grudieuse, tu peux être un fou, mais rien au monde ne t'oblige à être un poltron. Travaille à te fortifier, prie même pour obtenir la force, vieux grotesque, si tu en es capable. » Tâche de te souvenir que tu n'es rien et n'as jamais rien été. Rappelle-toi la génération à laquelle tu appartiens, prie pour voir cet enfant aimé et marié et ne demande ni amour ni pitié, car tu ne mérites ni l'un ni l'autre. » Pendant ce temps, que devient Rosa, l'objet de cet autre amour caché qu'elle ne soupçonne guère et sur lequel elle ne pourrait que pleurer comme une enfant si elle le connaissait? Ah, si les regards du vieil avocat étaient assez vifs pour percer les obstacles et franchir les distances entre Staple Inn et Bloomsbury Square, ses soupirs seraient peut-être encore plus profonds, sans être plus dénués d'espérance. Le drame d'Othello et de Desdémone se joue à Bloomsbury, dans sa partie la plus innocente, sans autre public que Mademoiselle Twinkleton. Mais Mademoiselle Twinkleton ne saurait être le public. Mettons donc qu'elle joue dans cette scène son rôle ordinaire de la convenance, ou simplement qu'elle figure comme le cœur antique. Rosa, en rentrant après son aventure, a trouvé M. Tartar sur le point de prendre congé de Mademoiselle Twinkleton.
L'absence de Rosa commençait à tourmenter cette digne demoiselle, mais toutes les questions et toutes les explications furent évitées par l'apparition de Bouton de Rose sous la protection de M. Grewgious. Il était temps. M. Tartare méditait déjà, en rentrant à la cabine de l'amiral, d'appeler tout le monde sur le pont. Le beau garçon, à la figure brune et fraîche, qui avait vu tant de pays, se laissa tomber dans un fauteuil d'un air intimement satisfait, et Rosa se souvint tout juste assez de sa terreur pour sentir plus vivement qu'auprès de lui, elle était brave. Rosa prit un siège à son tour, trop près du cher ennemi pour un combat à longue portée, trop près même pour mettre en pratique la théorie de vergue contre vergue, presque assez près pour l'abordage et le lancement des grappins. Tartare, sans se vanter, car cela lui eût enlevé la moitié de son charme, mais en se servant d'expressions ordinaires ou à demi-techniques, qui semblaient donner à tout ce qu'il disait une tournure particulière, Tartare, d'un air d'indifférence, se mit à lui raconter de merveilleuses histoires. C'était d'anciennes aventures par terre et par mer, parmi les orages ou le calme plat, à travers des dangers ou des contretemps risibles, toutes choses pittoresques et émouvantes qui ne peuvent vieillir. La jeune fille écoutait avec tant d'attention que le narrateur dut être satisfait. L'auditoire n'était pas nombreux. Rosa au premier plan, au second, la tranquille mademoiselle Twinkleton, travaillant au crochet car elle n'avait pas encore terminé le monstre en laine. Mais le marin n'avait jamais pris tant de plaisir à parler. Il raconta des chasses à l'éléphant ou au sanglier dans l'île de Ceylan, des chasses aux tigres dans le Bengale. Rosa le suivait des lèvres et des yeux, parfois elle semblait croire qu'il était encore en danger. Elle glissa timidement un petit mot pour rappeler que Ceylan était le pays où était née Helena Landless, puis un autre petit mot pour s'écrier « Oh, pourquoi étiez-vous si téméraire ?» Il lui dépeignit les trombes des mers de la Chine quand le ciel est noir comme un drap mortuaire et que la mer ressemble à une immense tombe entr'ouverte. Elle crut se sentir enterrée là, avec lui et son beau vaisseau. Il lui décrivit les luttes contre les pirates dans leur jonque. Elle crut voir briller tous les crises qui l'avaient menacée. Elle fit un mouvement comme pour parer les coups avec ses pauvres petites mains, et quand il fit sauter le vaisseau corsaire et pendit l'équipage à la grande vergue à l'aide d'une longue corde, et après un jugement qui n'avait pas duré plus de 4 minutes, elle crut réellement avoir été de cette chaude affaire et avoir assisté sans pâlir à cette équitable exécution. Ah, Rosa, chère petite Rosa, toute parée de jeunesse séduisante qui avait causé le meurtre d'Edwin Drood, cher Bouton de Rose, que John Jasper accuse de l'avoir rendu fou et de lui avoir fait de la vie un fardeau intolérable, que Hiram Grewgious n'accuse pas, mais qu'il adore, comme faisant de lui un idiot à cheveux gris, digne du fouet du maître d'école, Rosa, que vous êtes changée! Vous avez été émue par une expérience et une force supérieures à la vôtre, et c'est ainsi que se trouve forgée la chaîne qui doit être votre gloire ou votre malheur. Petite fille, vous-même, vous n'avez pas voulu du jeune garçon. L'homme est venu et vous lui appartenez. Othello paraît et Desdemone écoute. Et le drame de sa vie est écrit désormais et il sera impossible aux plus habiles d'y changer une scène.